Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure grave et on se retrouve cette semaine pour parler rêve, réalité et scénario simpliste avec mon fidèle compagnon qui est de l'étoffe dont sont faits ses propres rêves, celui pour qui le monde entier est une scène et qui ne cherche plus à donner un sens à quoi que ce soit si ce n'est à cette émission. Raphaël, bonsoir Raphaël.
Je ne sais plus qui je suis, putain.
Avec nous également, celle qui met tout le monde d'accord, celle qui apparaît comme l'évidence des évidences pour toutes les personnes éclairées et toutes les autres, celle pour qui on ne peut s'empêcher de dire c'est la fille. Cécile, bonsoir Cécile.
C'est la seule fille de l'émission jusqu'à il y a peu, donc oui.
Ouais, mais parce qu'on a beaucoup de mal à s'intégrer.
Voilà, c'est ça.
Enfin, il est de retour à notre micro, celui qui n'a pas peur de dire que notre espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués et
vice-versa.
Les inconnus.
6 mois.
Allez.
Six mois. Comment tu vas, Simon?
Très bien.
C'est vrai.
Ça y est, j'ai fini mon stage. Bon. Donc,
oui, c'est vrai. Tu as été contractualisé. Tu as encore 2 mois de période d'essai. Donc attention à toi.
Et on se retrouve cette semaine pour évoquer l'un des casse-têtes cinématographiques les plus énigmatiques de toute l'histoire du cinématographe, capable de donner des maux de tête à la migraine elle-même et qui fait passer Inception pour un épisode de babar. Ce soir, on parle de Mulholland Drive de David Lynch, sorti en France le 21 novembre 2001.
Mais oui, un film extrêmement compliqué, mon cher Gaspard, puisque c'est un des films qui a été, je pense, le plus théorisé parmi les plus théorisés. D'un monsieur lui-même très théorème dans sa tête, ne serait-ce que sa coupe inspire aux théories les plus bizarres.
Donc, ce qui me fait rire, c'est que c'est un film qui a été théorisé par 2 personnes et comme personne n'a osé passer après ça, et tout le monde en mode oui, c'est ma théorie aussi. Je suis d'accord. Oui. Donc,
j'y avais pensé avant, mais c'est bien que tu l'aies écrit. Mais sinon, c'est ce que j'avais en tête. Ouais. Non, mais voilà, donc c'est un film, ma foi, somme toute assez compliqué, qui a animé les passions.
David Lynch est né le 20 janvier 1946. C'est un cinéaste, scénariste, photographe, musicien et peintre américain.
Ah, ben voilà, tout s'explique.
Originaire d'une famille de classe moyenne qui a pour des raisons professionnelles longtemps voyagé pendant son enfance. Il s'inscrit à plusieurs écoles d'art avant d'étudier la peinture à l'Académie des Beaux-Arts de Philadelphie où il rencontre sa femme Peggy. Et cette expérience dans les quartiers violents de Philadelphie lui sert d'inspiration pour son premier film Eraserhead qui ne séduit pas particulièrement la critique mais beaucoup le milieu professionnel, notamment Mel Brooks et Coppola. Il l'aide à monter son second film Elephant Man en 1980 qui lui est un immense succès public critique. Et bon, après il a poursuivi en 1984 avec Dune qui est à nouveau un échec commercial, comme ta vie, Raph, largement rattrapé par le thriller culte Blue Velvet. Et dans les années qui suivent, il décide de créer sa propre série télévisée, ça s'appellera plus belle. Ah non, Twin Peaks, voilà, qui apparaît en 1990, accompagné quelques années plus tard du film Twin Peaks Firewalk One Man. Et d'ailleurs, en 90, le mec a pas que ça à foutre, il réalise aussi un autre petit film culte, je pense que tu le connais.
C'est Hilaire et Lula.
Voilà, qui lui permet de décrocher la Palme d'Or.
Nicolas Cage.
Avec Nicolas Cage.
Ah, ça y est.
Et Laura Dern.
C'est lui qui a fait Star Wars.
Mais rap, c'est bien.
Oui,
point curly. Point curly.
Et pour ses films suivants, il adopte alors un style surréaliste plus poussé et permet de produire 3 œuvres fortement ancrées dans la logique du rêve. On a Lost Highway en 97, le film de ce soir,
Mulholland Drive,
et Inland Empire en 2006.
Ah ouais, putain, j'ai jamais entendu parler.
Plusieurs années, il va se consacrer à son travail de peintre, de photographe, avant de revenir dans l'actualité il y a 2 ans avec la suite,
avec l'affaire Weinstein.
Twin Peaks.
Pardon.
3e saison.
Puisque tout n'était qu'un rêve, le mouvement MeToo n'a jamais existé.
C'est ça.
Complot.
Et revenu sur le devant de la scène il y a 2 ans avec la suite de Twin Peaks. Alors déjà, petite question, est-ce qu'on est familier de David Lynch ici? On a vu Twin Peaks?
On a vu Twin Peaks, oui, de mon côté.
On a vu un petit peu Twin Peaks, on a vite arrêté.
Ça n'a rien à voir avec le Twix, hein, t'es conscient?
Ah ouais.
Reprends un curry.
Mais c'est bien ça qui m'a embêté. Ah. Mais ça n'a rien à voir avec Star Wars d'ailleurs, je tiens à le dire.
Tu n'aimes pas Twin Peaks?
C'est pas que j'aime pas, choqué. C'est plus qu'au bout d'un moment, mais de manière générale, je pense qu'on peut peut-être donner notre avis un peu sur Monsieur Lynch, que ça m'a fait très plaisir de le voir il y a 2-3 ans, quand je l'ai vu pour la première fois, la deuxième fois aussi, c'est que ça me fait un peu chier parfois, même si c'est assez beau et qu'il y a de très bonnes idées. C'est un peu chiant quelquefois, voilà. Je sais pas, ça m'a pas fait autant de plaisir. D'ailleurs, je l'ai regardé en accéléré, voilà.
Bah, bravo. Après, il fait 2h30 pour sa défense.
Je décris nos 3 sourcils qui se sont levés, traduisant un relent téléramasque.
Le seul que j'ai pas regardé en accéléré, c'est la French.
T'aurais dû.
Et les petits mouchoirs.
J'ai voulu savourer minute après minute de cette performance.
J'ai ralenti, moi. Ouais. Ça a duré 3h50 sur les séries de Lelouch, mais...
tout de même le parrain de ton fils. Non, mais il y a des scènes qui sont vraiment top pour le coup, qui sont hyper. Je trouve qu'en termes de mise en scène, le mec est brillant, ça marche hyper bien. C'est juste qu'au bout d'un moment, alors là, tu comprends, si t'as pas vu qu'il y avait un 2e pli sur le drap, ça veut dire que t'es pas dans le rêve et si la toupie tourne encore, c'est qu'en fait, Jar Jar Binks existe vraiment.
Ouais, c'est quand même. C'est quand même un peu plus intelligent que Inception.
Illumine à tous.
C'est un peu ça.
C'est quand même un peu plus intelligent que Inception.
Oui.
Alors oui,
en termes de rêve.
Simon, ça t'a plu, David Lynch?
Bon, déjà, j'ai pas vu Twin Peaks.
Ah.
J'aurais peut-être pas dû le dire en fait.
Cécile, ça t'a plu?
Bah, j'ai adoré le film, moi, par contre.
Oui.
Je suis désolé.
Mais tu as une priori sur David Lynch, est-ce que c'est ta cam ou...
Oh, bah, le mindfuck, j'aime bien ce genre de film.
Parce qu'en soirée,
ce genre
tu dis
de
aux
film.
Gens, venez dans les chiottes, et tu leur sors sur ton iPad, on va se faire 10 minutes de Mulholland Drive. Oh, bordel.
Le bon, je suis de sa mère.
T'as compris? C'est là que
tu
ça joue.
Tu as.
Non, t'as pas compris.
Non, mais du coup, c'est à moitié ta cam.
Ouais, à moitié, ouais.
C'est à moitié,
bah,
c'est
le David Lynch.
C'est le seul film que t'as vu de lui ou pas?
Et en série, il a pas fait autre chose à part.
Non, Twin Peaks.
Ouais, non, bah, c'est le seul truc.
Ah, il a fait deux épisodes de Un si grand soleil, la nouvelle série française.
Ah oui, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai que ça partait un peu en couille là-dedans. Ouais.
Et toi, Cécile, qu'est-ce que tu penses de notre ami David Lynch?
Qu'est-ce que tu penses tout court?
Eh ben oui, j'aime bien David Lynch. Bon, après, je suis pas une.
J'aime bien la réponse. Moi, juste, qu'est-ce que tu penses de David Lynch? Oui.
Ok. Mais une réponse qui lui plairait beaucoup.
Eh bien, merci, Cécile.
J'aime bien sa coiffure aussi.
Ouais.
On parlait
très, très connu pour ça.
Mais après, je suis pas une professionnelle. Mais disons que j'ai vu Twin Peaks, qui est quand même la base. Qui est quand même la meilleure série du monde. Après, j'avais vu Sailor Moon aussi, que j'avais adoré, et Mulholland Drive, que j'ai aimé aussi. Après, j'ai pas non plus... En fait, on m'en avait fait tout un pataquès de Mulholland Drive, et quand je l'ai vu, j'ai pas non plus trouvé ça si ouf que ça.
Moi, je pense qu'il y a la première visualisation et celle d'après.
Mais c'est marrant que du coup...
Il y a la première visualisation, la première trace de C, le démissionnage, la troisième trace de C, là.
De 3 heures de Google pour essayer de comprendre.
Le drap, ça explique tout.
Moi, je comprends que à l'époque, en fait, les mecs étaient complètement
crâne retourné.
Mais sauf que maintenant, comme nous, on le voit,
on est habitué au
20 ans et que l'interprétation, elle est connue de tout le monde, on est un peu en mode, oui, bon.
La première fois que je l'ai vu, dans mon souvenir de la première fois que je l'ai vu, c'était plus. Il me semblait qu'il y avait plus d'action et tout ça. Et quand je l'ai revu, en fait, c'était peut-être.
Moi, je me souviens des années.
Juste revenir sur ce que disait Gaspard, je pense qu'il a parfaitement raison, comme d'habitude, et que je lui sucerais bien la bite. Mais ça, c'est annexe. C'est qu'en fait, c'est.
J'ai raison, c'est annexe.
Voilà. C'est que c'est un film qui est hyper beau, hyper léger, hyper bien fait et qui marche hyper bien dans les années 90 et qui a pas perdu sa patte, enfin il a pas mal vieilli pour ça.
2001
pardon,
il a
une esthétique hyper de ces années là. Moi j'aime bien les films de cette époque, mais ça a parfois en termes de construction du récit perdu de son intérêt. Moi c'est quelque chose qui m'a un peu gêné peut-être dans ce visionnage, mais sinon c'est quand même assez bien fait.
C'est plein de mystères ce qu'on dit. Est-ce que Simon tu pourrais rapidement nous pitcher
Mais toi t'as pas dit ce que tu en avais pensé.
Moi t'en as pensé quoi toi?
Eh ben moi je pense que ce que j'en ai dit il y a quelques secondes que c'est un film qui est assez envoûtant.
Non, il était excité par.
Mais ça c'est que
ça y est, il y a deux filles qui s'embrassent, c'est bon.
C'était génial. Mulholland Drive chapitre 1 et 2. Mais non, c'est à dire que je trouve ça assez fascinant, mais c'est vrai que le film était tellement épuisé par tous les bouquins et tout ce qu'on en a lu que je pense que j'aurais kiffé le voir il y a 20 ans où personne ne m'expliquait ce que c'était.
Ouais, fait qu'il fallait réfléchir pour créer toi-même ta théorie.
Après j'adore l'ambiance dans laquelle il met. Je suis pas un immense fan de Lynch.
Moi aussi.
Pour moi, vraiment, c'était pas du niveau de Twin Peaks, tu vois.
En fait, c'est l'ambiance, c'est ça qui est hyper bien.
C'est ça, le truc un peu malsain, bizarre.
C'est dingue, je disais à Simon en
antenne.
L'humour, en fait. Je trouve ça super drôle.
Ouais. L'humour est bien.
Et je trouve que c'est un des rares mecs, tu vois, contrairement à Nolan, qui pour moi n'a pas d'humour.
Ouais.
Bah, Lynch, vraiment, il est
c'est
hyper
vrai.
Drôle.
En fait, Nolan, tu dis qu'il a regardé un peu trop Lynch, il s'est dit putain, c'est hyper cool d'être mystérieux. Sauf que maintenant, j'ai envie de mettre des mecs avec de la testostérone.
Oui, mais c'est ça, c'est à l'américaine.
Maintenant, ce qui est rigolo, c'est de foutre le dawa et que ce soit un peu rigolo aussi.
Et lui, je le trouve très marrant.
Je disais qu'il faisait vraiment des personnages complètement ahuris et décalés, comme on dit. Et ça se voit plus dans ses films, genre Sailor Moon et Twin Peaks, justement.
C'est vrai que c'est
Sailor Moon, c'est
plus ou du coup, l'ambiance est beaucoup plus, même encore plus spé, finalement.
Peut-être qu'on peut. Alors, moi.
Pitcher rapidement.
Est-ce qu'on pourrait pitcher très rapidement ce qui s'est passé
très rapidement.
Et surtout. Alors, avant dès le début, la théorie qu'on va suivre.
Avant que t'attaques ça, je me sers un Ricard, parce que là, il faut suivre.
Ça va être dur.
Alors, les aiguilles.
Bon, le saladier là, vas-y, tire un papier pour savoir quelle théorie on va suivre. Vas-y, tire.
Je pense qu'on va.
Hop.
La celle qu'on n'a pas du tout développée, vas-y.
Ok, très bien. Alors.
C'est avec les Teletubbies. Alors là.
Donc là, c'est l'histoire. Bon, alors, du coup, si on résume le plus simplement possible, on a les deux tiers du film, c'est un rêve que fait Diane, qui est incarnée dans le rêve par Betty.
On va l'appeler Naomi Watts, non?
On va l'appeler la blonde. La blonde.
Ce sera plus simple.
La meuf qu'elle est bonne.
Elle va aussi, meuf qu'elle
est bonne.
Allez, elle est
bonne. Dans la réalité, elle arrive à Hollywood pour essayer de percer dans le milieu de l'industrie et du cinéma. Et ensuite, elle va pas avoir un rôle super important au détriment de la brune. Oui. Et ensuite, par jalousie, bon, on va en reparler plus tard, bon, grosse scène de jalousie, elle va la tuer, mais elle va pas réussir à... Elle va culpabiliser tellement de son acte qu'elle va s'imaginer une autre histoire dans son rêve.
Simon vient de nous faire tout le film.
Ouais.
Non, mais c'est l'épisode le plus plus court qu'on ait jamais fait.
La semaine prochaine.
Alors voilà, c'est ça. Simon vient de nous faire l'histoire démêlée, mais en fait, la manière dont le film est construit, c'est beaucoup plus. On part un peu à l'envers.
Compliqué.
Et du coup, on attaque avec l'arrivée de Betty à Hollywood pour percer dans le cinéma.
Alors le film s'ouvre sur une scène un peu étrange, Raph, parce que c'est une scène de danse en fait.
Donc il y a une espèce de scène de danse un peu chelou pour ouvrir. Bon, c'est un petit peu l'espèce de générique qui va nous faire en fait. Hein, ça s'ouvre là-dessus.
On est à la salle des fêtes de Montigny là.
Enfin, ouais, on comprend pas trop ça.
Ah non, on comprend rien même.
Je dirais que c'est des gens découpés dans du papier qui dansent.
Mais je visite sur Orange, c'est exactement comme ça. Un samedi soir avec des extas dans le ponche et puis voilà.
On voit apparaître une jeune femme blonde qu'on reconnaît, Naomi Watts.
Ouais,
qu'on connaît tous.
Alors là, c'est
toute blanche.
Des petits vieux, hein.
Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est meuf bonne plus quoi.
Ah, alors tout de suite.
Premier point.
On parle meilleur.
Naomi Watts.
Naomi Watts est-elle resplendissante?
Oui, alors, elle est resplendissante.
Moi, resplendissante que je la baise, tu vois.
Non mais au-delà de tout ce qui est grave bleu, elle est vraiment absolument superbe. Et ouais. Elle rayonne dans ce film, elle joue hyper bien.
C'est son premier grand rôle. Ouais.
Putain, mais qu'est-ce qu'elle joue bien?
Et donc on la voit apparaître, elle est avec deux petits vieux. Elle a l'air de remercier des gens qu'on comprend pas trop ce qui se passe dans ce montage.
Mystère.
Y a-t-il un lien entre le montage?
C'est son départ de la cure.
C'est ça.
Merci, j'espère ne jamais
mes
revenir.
Mes amis imaginaires.
Pot de départ.
C'est vraiment, elle venait de sortir de rehab pour David Lynch qui lui offre son premier grand rôle. Merci. Deux minutes après, genre, putain, il faut que je reprenne la drogue.
Ou alors, c'est une petite vieille qui a pris trop ses médicaments et c'est pour ça qu'elle se rêve qu'avec des petits vieux.
En mode Requiem for a Dream.
Cut tout, et là, le montage, en fait, ça va être une succession de petits sauts comme ça. On découvre quelqu'un dans un lit complètement recroquevillé.
Moi, ce plan, j'avais zappé, hein.
Oui, qui plonge.
Qui respire fort aussi, hein. C'est, c'est par rapport à Star Wars, c'est...
Exactement. Oui.
Moi, j'avoue qu'en vitesse 1.2, ça faisait...
Qu'est-ce qu'elle peut bien
faire? Alors, elle est pas resplendissante, Naomi Watts, hein?
On découvre alors une voiture qui roule doucement sur la route de...
The Mulholland Drive.
Non, c'est le titre du film! Yes!
Parce que je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai compris. Oui, il est pas si difficile à comprendre, ce film.
2h20 après pour ça? Non, les gars, c'est bon.
Cut!
Ah, voilà.
Allez, les crédits, on n'en parle plus.
Et une jolie voiture qui est violemment percutée par une autre qui roule à toute berzingue.
Ça, j'adore pour le coup, parce que c'est vraiment genre les personnes qu'on ne reverra jamais, c'est les jeunes qui font la fête. Le toit ouvrant à 100 km/h sur une route de montagne.
C'est... Puis c'est surtout qu'on a l'impression que ceux qui sont morts, c'est uniquement ceux qui se sont fait percuter et pas les jeunes.
Oui,
ça aussi c'est drôle.
Il y a quelqu'un qui
survit. Il y a quelqu'un qui a survécu.
Ouais.
Oui.
Qui c'est cette personne?
Une belle brune sexy, moins connue que Naomi Watts d'ailleurs, vu qu'on ne la reverra jamais. Sort de la voiture, réussit à s'échapper, donc on la voit un peu perdue, elle se perd dans les bois et elle arrive dans une résidence un peu chic de Los Angeles.
Dans un EHPAD.
Alors ma petite gaine, un centre de désintox.
Gated community. Où elle voit genre deux vieux qui se cassent et du coup elle se dit je vais squatter leur baraque.
Je vais clairement taper la creuse dans leur baraque.
Il tape la creuse dans l'EHPAD. Mais alors madame Michu, pas brisé ta
chaîne.
Cut tout à fait normal sur un Winky. Qu'est-ce qu'un Winky, Simon?
C'est un café, un petit café.
C'est genre le nom générique Winky?
Bah non, ils appellent ça un Winkies.
Bah dans ce café, cette chaîne de café, il y a un homme qui raconte à son ami le cauchemar qu'il a eu et dans lequel il y avait un horrible personnage derrière le bâtiment, mais il pouvait voir à travers les murs, le gars. Et donc ensemble ils vont examiner les lieux. Il va y avoir la scène où ça suit dans le mur.
C'est pas une des scènes les plus flippantes que vous ayez.
Oui,
et les plus stylées, parce que ça se passe le bail se passe en plein jour quand même.
Ouais, en plein
et
jour.
Et le mec nous fait flipper de malade alors que
mais justement c'est ça qui est je trouve hyper stylé.
The Shining.
C'est le côté genre c'était dans mon cauchemar et j'espère que ça va pas se réaliser
et ça se réalise.
C'est effrayant. Mais moi je me souviens avoir vu ce film la première fois genre à 13-14 ans,
j'ai piqué
le DVD et maté ça le soir dans mon lit en me disant ouais, je matais un film d'adulte.
Genre au bout de
Mais du coup, t'es loin encore.
Ah, mais c'est bien parce que du coup, ça te rend vraiment dans l'ambiance du film en mode bon, on va pas rigoler.
Ouais, mais qu'est-ce qui est derrière le mur?
Ça va être chelou.
Eh ben, on sait pas encore. On va l'appeler le Clodo plus plus.
Voilà. Parce que du coup, il y a une salle, une espèce de tronche de Clodo.
Mais on sait même pas si c'est un homme ou une femme.
C'est un clochard caramel, je l'ai appelé. Là, il a du sucre. Enfin, il est pas terrible, quoi.
Donc, on découvre alors Betty, qui est jouée par Naomi Watts, qui débarque à l'aéroport de Los Angeles pour débuter sa carrière d'actrice. Elle sort de l'avion, elle est accompagnée de deux petits vieux.
On sait pas pourquoi.
On sent qu'elle les a rencontrés dans l'avion.
Elle s'est fait des amis dans l'avion, voilà.
Ils ont fait la conversation, quoi.
Ça fait le lien avec la première scène.
Ouais, j'ai rien dit du tout, on reconnaît un peu les deux petits vieux.
Mais du coup, elle est vraiment en mode bisounours, genre, waouh, le monde est beau.
Ouais, elle fait vraiment candide, hein, la fille.
Et surtout, genre, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, le taxi lui prend ses bagages. Tout est simple et beau.
T'as envie de la claquer, la meuf.
Elle débarque dans sa villa, qui est un palais où la propriétaire l'accueille en mode ah, mais vous êtes tellement attendu, c'est magnifique, vous avez le droit à un appartement rien que pour vous.
Vous
c'est
êtes
génial, quoi.
Vous êtes attendu, le juge a dit que vous deviez faire votre désintox, sinon c'est la tôle.
Elle arrive alors à la villa où Coco lui ouvre.
Coco.
Si vous n'aurez pas de Coco.
Donc vous avez du coca.
Il ouvre l'appartement. Et dans l'appart, elle tombe du coup sur la brune au gros néné.
La brune au gros néné, voilà. Qui est dans l'appartement.
Qui est en train de prendre une douche.
Oh.
Alors, toute nue.
Déjà, premier moment un petit peu. Ouais.
Croit que c'est une amie de Satan.
Premier moment un petit peu homoérotique, c'est la découverte justement. C'est elle entre, elle voit que la meuf prend une douche. Elle sort pas de la salle de bain.
Oui, elle t'a pas dit chute.
Elle la regarde trop
à travers la vitre.
Donc ça commence par comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais là, et
putain,
ça termine
mais t'as
par
des gros que moi.
T'as voté quoi aux dernières élections?
Écoute,
qu'est-ce que
moment,
tu penses
là.
De Swagman?
Tu
sais, puis elle commence à taper la discute, quoi.
Elle commence à lui dire surtout, ah, je savais pas que ma tante avait invité une copine. Vous faites quoi dans la vie?
Cochonne,
la comment tante, vous appelez? Sauf que la brune au gros néné, elle se souvient pas de son prénom.
Elle se souvient pas de son nom, elle se souvient pas qui elle est.
Du coup, elle va inventer un nom. Comment elle s'appelle?
Rita.
Comme Rita.
Ewers.
Je m'appelle Kylian Mbappé.
Ah, c'est pas mal, ça. On a une nouvelle coupe, parce que tout ce film est fait de coupe. On découvre un mec qui s'appelle Joe Messing, une espèce de tueur à gages maladroit. C'est là qu'on arrive un peu sur le côté humour.
Ah ouais, mais ouais. C'est-à-dire que le mec, il tue tout le monde, quoi. Ouais.
Surtout, mec... ça sort de nulle part, et le mec est dans la discrétion zéro, alors que c'est genre un tueur à gages.
Eh bah, il fait quoi? C'est Dino, donc.
Eh bah, il tue
un mec qui devait, le mec voilà. Qui devait tuer pour récupérer quelque chose.
Voilà.
Sauf qu'il tire malencontreusement une balle qui traverse un mur. Qui
et là, il y a un
rentre dans le cul d'une baie, d'une brosse.
C'est ça. Là, il y a un type qui vient l'agresser en mode qu'est-ce que tu fous. Là, ils se battent, ça fait masse de bruit.
Et
ensuite, il y a un mec du ménage. Et ensuite, il déclenche l'aspirateur qui ne s'arrête pas. Et ensuite, il tire sur l'aspirateur. Et il y a la sirène d'incendie. Bah,
donc, c'était très compliqué, mais en gros, on a ce tueur à gage extrêmement maladroit.
Voilà. Qui a un peu une tête de nounou.
Oui,
voilà.
Qui a l'air très sympa qu'on a vu dans d'autres films, mais je ne me souviens plus lesquels, malheureusement. Et on a un nouveau cut. Et là, on passe sur un autre personnage absolument insupportable qui s'appelle
Adam.
Voilà, qui sort de ton dernier clip de Sum 41.
Qui est réel, mais tu peux pas comprendre.
Ouais. Tu peux pas comprendre son art. Il est dans une réunion avec des producteurs, on sait pas
ouais,
quoi.
C'est producteur de
et on se
film.
Rend compte que un petit peu son producteur va commencer à lui imposer des deals un petit peu mafieux.
Voilà, Adam. Un certain nombre de suggestions vont bientôt nous être faites. Et je sais que tu as dit que tu étais prêt à envisager toutes les suggestions. Et c'est ce que tout le monde ici attend de toi, rien d'autre.
Je comprends rien à ce que tu me racontes.
Un esprit ouvert. Tu as entrepris de remplacer ton actrice principale, et moi... Enfin, nous, tout ce qu'on te demande, c'est de garder l'esprit ouvert.
Ah, les frères Castigliani. D'abord, il faut que je fasse les présentations. Je vous en prie. Je vous en prie, asseyez-vous donc, Monsieur Darby, que nous connaissons tous, et notre réalisateur, Adam Kecher. Et son agent, monsieur Robert Smith.
Alors, on découvre alors.
It's the girl!
Des mafieux qui sont là
mafieux.
Pour imposer, en fait, leur actrice.
Non, ils sont là pour deux
réalisateur.
Choses.
Ils sont là pour
la fille.
Et pour le café.
Et pour l'espresso. Et l'espresso, il est comment?
What else?
Il est vomi.
Elle est extraordinaire, cette
scène.
Qui se pisse dessus à l'idée que le mafieux n'aime pas le café qu'on va lui servir.
Ouais. Surtout qu'ils ont fait venir le plus grand spécialiste, etc., ouais. D'Italie et tout, juste
bah,
pour
ça
lui
se voit
faire
qu'il
un
italien,
bon espresso.
Il se sape en triple XL.
Ça se voit qu'il dit, il connaît rien. C'est comme quand tu fais semblant de t'y connaître au vin au resto.
Mouf.
Je viens de vous servir le plus grand vin de toute l'histoire du vin. Moi.
Et ça, en sortant, il fait, putain, il était trop bon son espresso, je suis dégoûté.
T'as pas d'avillageoise?
C'est crade. C'est pas bon. Remets-en à queue pour voir.
En tout cas, il y en a un que ça fait pas plaisir, c'est Adam.
Le réalisateur.
Le réalisateur hipster Combini. Il veut pas que Camilla soit son actrice.
Oui. Donc là, on a compris qu'Adam se faisait imposer un peu ses choix par les mafieux. Il va s'énerver, il va aller leur péter leur bagnole.
Mégalo
à coup de club de golf.
Il est pas content.
Et après, il rentre chez lui. Et alors, chez lui, il découvre qui?
Sergio.
Laurence.
Sergio. Et là,
le
mulet. Qui gère Sergio le mulet.
Alors, il a vraiment la tronche de Mario, quoi. Donc, mais...
En gros, concrètement,
Sergio est l'amant de sa femme.
Voilà. Voilà. Il découvre sa femme dans son lit avec son amant, qui est le mec qui s'occupe de la piscine. Et alors, son amant, je trouve que c'est un des personnages qui m'a le plus marqué dans ce film.
C'est à hurler de rire, comme il lui dit en mode genre, ouais. Je suis désolé.
Ouais. Le gars est dans son lit.
C'est fait genre,
je suis désolé, mec.
Elle est libre de faire ce qu'elle veut.
Et après, il a genre, c'est vrai qu'à ta place, j'aurais été un peu vexé.
Ouais, moi aussi, vu ma gueule, j'aurais les boules.
Mais en même temps, le mec, et je trouve.
Tu devrais pas parler à ta femme comme ça.
Oui. Et après, il faut un gros pain.
Non, mais il est extraordinaire, ce Sergio.
Déjà, je le trouve très beau. À titre personnel, je le trouve très beau.
Chacun son truc. Et très beaucoup.
Non, mais à part sa coupe, il est beau.
La femme qui engueule Adam, en mode genre,
ouais.
Non mais sa voix
voilà.
En plus.
Ah, mais pourquoi t'es là?
Pourquoi t'es là? Parce, bah t'as cherché, t'as exactement ce que tu cherchais, voilà.
Enfin, c'est quand même.
Je t'avais dit
ta gueule.
Et du coup Adam pour se venger, qu'est-ce qu'il fait?
Il prend ses bijoux et il fout de la peinture rose dessus.
Les bijoux de la fille, hein, pas les siens.
Oui oui.
Les bijoux de famille. Les bijoux de
famille. Ça te fait bien chier, hein.
Non.
Tu vois que je te dis Adam, c'est exactement pour ça que je te trompe.
Bam.
Donc il s'enfuit un peu de chez lui après s'être fait casser la gueule par le Pullman qui avant lui mettre une patate, il dit désolé.
Deuxième fois.
Et alors, on peut à nouveau, cette fois-ci, faire une pause et essayer d'expliquer. C'est que, donc, on est dans le rêve de Naomi Watts. Et cette fois-ci, en fait, elle va être jalouse de ce mec dans la vraie vie. Et du coup, elle est en train d'imaginer comme un vrai loser qui, lui, cette fois-ci, se fait tromper. Alors que dans la vraie vie, c'est elle qui est jalouse de ce mec.
Putain, j'avais carrément pas vu cette lecture, mais c'est
vrai. On l'a vu.
Mais
dans...
à la fin, il dit quand même dans... que son ex se tapait le mec voilà. De la piscine.
Ouais, mais dans le dernier tiers du film, on le voit, le gars.
Oui, on le voit. Oui. Il sort avec la brune, finalement.
Bon, on verra ça après.
On verra ça plus tard. Mais en tout cas, comme quoi, elle Naomi Watts s'imagine constamment en héroïne. Tous les autres, eux, galèrent.
D'une certaine manière. Puisque comme on vous disait, ce que vous avez expliqué
Simon
au début, t'inquiète, c'est qu'en fait tout ça là, on le sait pas au début, on sait pas qu'on est dans ce rêve, donc on voit juste des scènes un peu découpées. Mais du coup, c'est vrai que là, en remettant du sens, c'est plutôt intéressant. Mais du coup, il va à l'hôtel, Adam, parce qu'il a été viré de chez lui, et
dans
il
hôtel
apprend
un peu miteux pour un réalisateur quand même.
En gros, il apprend qu'il y a
chez Cookie, exactement.
Chez Cookie.
Et Cookie, il lui apprend quoi? Que pour 3€ chez Subway,
Cookie,
tu peux en avoir 3 des
Golden Retriever.
Et qu'il ne parle pas. Du coup, Adam est vraiment...
Oui.
Que dis-tu, Cookie?
Je suis bien d'accord.
La banque est attaquée par les rictos ou quoi? Et donc, il lui apprend que... Cookie lui apprend qu'il y a un personnage nommé le cowboy qui le cherche. Donc, il va rencontrer ce cowboy.
Oui.
Et ce cowboy, qu'est-ce qu'il lui dit?
Il lui dit, Adam, tu devrais accepter Camilla comme actrice principale.
Et qui était Camilla?
La fille... Recommandée chaleureusement par les mafieux.
Les mafieux vous recommandent chaudement Camilla.
Et un espresso, un bon espresso.
C'est une femme qui a un CV tout à fait intéressant. Et qui a tapé dans notre œil, voilà.
Qui a tapé dans notre œil et qui bientôt tapera dans tes rotules si tu ne l'apprends pas.
Voilà. On peut quand même dire que c'est complètement random, parce que le mec arrive au milieu d'une arène de taureaux.
Je pense que c'est là où les mecs, il y a 20 ans, ils voyaient le film. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que là, on est à 1h30 de film. Putain, ça ne veut rien dire.
Et surtout, ce cowboy, il y a un truc extrêmement intéressant. Il dit ah, si tu fais tout bien.
Il y a un serpent dans ma bonne.
Je suis ton ami. Mon ami. C'est toi. Il lui dit, si tu fais bien les choses, tu me reverras qu'une fois. Si tu fais mal les choses, tu me verras deux fois.
Si tu fais les choses moitié bien, tu me verras trois fois.
Et si tu appelles ce numéro non surtaxé pour commander aujourd'hui tes 36 brosses.
36-15 cowboy.
Mais bon, alors on retourne à Betty et Rita. Et pour aider Rita à retrouver la mémoire, Betty lui dit, bah, tu devrais regarder dans ton sac.
T'es con, quoi. T'as un putain de sac.
Et en revanche, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Il n'y a pas de carte d'identité.
Il y a des thunes.
Il y a bien thunes, du flouze.
Il y a beaucoup.
Il y a beaucoup.
Il y a beaucoup de flouze.
Ouais, mais c'est les Français FA, ils sont dégoûtés.
Non, mais il n'y a pas que ça.
Et une clé.
Il y a une étrange clé bleue.
Forme de clé, oui.
Trapézoïdale.
Afin d'en savoir un peu plus sur l'accident, elle décide de se rendre à une cabine téléphonique, d'appeler pour un moment. Bref, elle rentre dans le Winky qu'on a vu au début.
Surprise.
Elle rentre dans le Winky.
Elle se fait servir un café
par Diane.
C'est marqué sur sa petite pancarte.
Ouais. Sauf qu'un coup, la frontale se dit. Je me souviens de Diane Selwyn.
Ça me dit quelque
un
chose.
Café par N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. J'ai vu ses buts.
Et elle se dit Diane.
Une frappe de bâtard, c'est pas mort.
Deuxième poteau, pas mort.
Second.
Hilarious.
Après une recherche dans la nuit pour savoir qui est cette Diane Selwyn, elles appellent le seul numéro qui existe, mais
bip bip bip. Ça ne répond pas.
Cécile nous analyse 40 ans de téléphone au cinéma.
France Télécom présente.
Enfin non, il y a un répondeur qui dit D'ailleurs, ce répondeur.
Je ne suis pas du tout mort.
Surtout que c'est vraiment, ce répondeur est vraiment nul parce que c'est genre, oui, c'est moi.
Merci. Oui, oui. C'est moi, il y a un message.
Salut. Ouais. Je suis d'accord.
Salut, c'est moi. Vous savez où me trouver.
Ouais, c'est ça.
Il est en pleine présentation au Festival de Cannes. Oh putain, j'avais oublié d'écrire le répondeur.
Oh, le con.
Ah, ça prêt, putain, ça.
Et si vous voulez mettre des cahiers du cinéma, dans la présentation du répondeur. Ouais, ouais, ouais.
C'était fait.
Ouais, ouais, ouais.
J'ai réfléchi, tu vois.
J'ai vu qu'il a oublié de mettre la passoire.
Ouais.
Alors, David Lynch, ce film aurait été nul s'il n'y avait pas eu le coup de la passoire. Hein,
c'est comme dans la suite de la peur, ils sont trompés de bobine, ils ont mis Lynch était à la mode.
C'était
totalement fait exprès.
Je pense que sans ce move, ce film aurait été raté. Oui, tout à fait, c'était volontaire.
Et Betty se rend alors à une audition à laquelle Rita l'a aidé pour se préparer, sauf que...
Putain, alors là, on va passer un petit peu de temps dessus. Deux choses. Déjà, alerte MeToo. Waouh, waouh.
Oui, c'est vrai.
Oppression sexuelle forte.
Et chose avant, aucun casting ne se passe comme
oui,
ça.
Oui, c'est clair.
Il y a toute l'équipe.
La moitié du studio, quoi.
Alors ici, vous avez le producteur, le coproducteur, le vice-producteur.
C'est ça,
l'assistant caméra numéro 1, ma tante, ma belle-sœur, mon enfant de 5 mois. Fais bien bisous.
Et Kiki le régisseur.
Salut, moi c'est Kiki.
Régie.
Non, il y a le premier ministre, il y a le ministre de l'Agriculture.
J'adore parce que l'agriculture.
Moi, je préfère les enfants.
Qui est Goofy, en fait.
Il met des paniers au fond.
Waouh, j'adore ce que tu fais. Et elle passe ce casting.
Alors, ce casting se passe très bien d'un point de vue professionnel pour elle.
Elle va être extraordinaire.
Parce que là, elle va. Alors déjà dans un plan séquence, aucune coupe de David Lynch sur tout son jeu en plan serré. Je pense qu'elle livre une des performances des plus incroyables que j'ai vues depuis un petit
peu
de temps.
Est-ce que c'est un émoustillé ?
Tu verras dans deux semaines quand on parle d'Air Bud.
Lui, il s'est joué lui.
Sans un seul mot. Ça, c'est du golden.
Non, mais vraiment, elle joue avec. Enfin, j'étais vraiment ébloui par
l'intensité.
Ouais, c'est hyper beau que la manière dont
et surtout
joue.
En fait du coup objectivement c'est une actrice de génie en fait Betty elle est faite pour être actrice, elle est extraordinaire, tout le monde lui dit quoi.
Et c'est en totale contradiction quand elle faisait la répétition avec la brune
la scène juste avant,
elle est à chier puis elle dit putain c'est une scène de merde.
Alors et là, en plus elle la joue pas du tout de la même manière,
elle est hyper sensuelle, il y a une putain de tension sexuelle qui se passe, c'est ouf.
Il y a un petit taquet au studio et au film pourri d'Hollywood.
Voilà, parce que si elle joue très très bien, d'un autre côté, les partenaires masculins qu'elle a dans sa scène, c'est clairement des gros porcasses, quoi. Donc, on a un bon gros balance-ton porc. Mais au-delà de ça, putain, franchement, moi, j'ai été...
Et c'était il y a 17 ans.
Mais c'était un lanceur d'alerte, hein, David Lynch. Mm.
Non, Naomi Watts, big
c'est
respect
les
pour
WikiLeaks.
Toi, quoi.
Pardon.
WikiLeaks. C'est bon, franchement, c'est pas mal. C'est pas...
Bon, tout le monde dit, en tout cas, c'est une actrice de génie. On l'emmène d'ailleurs voir le plateau du film que réalise alors Adam, qui s'appelle L'histoire de Sylvie North. Et alors on voit Camilla Rhodes qui s'apprête, elle, à passer...
La vraie Camilla Rhodes.
Ouais, non, Camilla Rhodes qui était la fille proposée par les mafieux,
voilà.
Pour mémoire.
C'est la fille.
Là, Adam dit voilà, c'est la fille.
C'est la fille.
Parce que lui, il a compris la leçon.
C'est la fille. Sauf que là, il se retourne, Adam.
Et là, eye contact.
Ouais, il voit Naomi Watts.
Mais on sent que dans le regard passe un côté, échangeons nos numéros et faisons un rendez-vous professionnel.
Faisons l'amour.
Professionnel.
Juste tous les deux.
Parce que vous voulez dire.
Sauf que Naomi Watts, elle est en mode genre, en fait, il faut que j'y aille et tout. Faut que je parte.
Elle se barre pour aller. Elle dit, j'ai promis à mon ami de l'aider. Et en effet,
mon
elle ami. Va aider Camille, Rita, pardon, je sais pas pourquoi je dis Camille. Elle
à
va
se
aider.
Rendre.
Ils vont aller chez la Diane qu'ils avaient trouvée dans
disait,
la lumière.
Oui, c'est moi.
Et alors là, il va y avoir la deuxième séquence un peu spooky.
C'est pas spooky, c'est moi la première fois que j'ai vu ce truc et encore je l'ai vu hier soir. Je me pisse dessus à chaque fois.
C'est
horrible.
Moi pour.
Ça sent la mort.
Pour
oui, ça pue la merde. Pour
résumer un peu comment j'étais à ce moment-là parce que je le regardais et à côté, ma chère et tendre dormait.
Elle dormait pas sûr.
Les Allemands. C'est vraiment genre.
Chanteuse dans la cave!
C'est genre, sentir un corps contre moi en voyant ce corps en décomposition, j'étais genre.
Je suis sûr qu'elle va être ravie de l'entendre.
Là, il y a une petite mouche.
Si tu nous écoutes, hein, dédicace.
Patrick, je t'aime.
Et en fait, du coup, elle rentre dans cet appartement, et elle se pince tout de suite le nez, elle dit. Tu comprends
ça
que ça sent le cadavre. Et elles arrivent, et délicatement, elles vont s'approcher de ce corps qui est en décomposition.
Et là, elles vont sortir leur fébraise, mettre un petit coup, et là, on respire, putain!
Et là, il y a Monsieur Propre qui sort du truc.
Bonjour, les enfants! Je peux vous donner un cadavre sur les bras! Je peux vous en débarrasser!
Oh, Monsieur Propre, aidez-nous, on a fait une bêtise!
Allons dans le désert!
Monsieur Propre, j'ai fait une grosse connerie, putain!
Bon, elles sont en tout cas complètement traumatisées. Et du coup, comment on se détraumatise d'un meurtre, de la vue d'un mort?
On se met à poil et on se caresse.
Non, d'abord, on se change de coupe de cheveux.
Ah oui.
Je te propose de nous résumer, Cécile. Qu'est-ce qui se passe après cette coupe de cheveux? Ça arrive le moment du coucher.
Oui. Et alors, Naomi se met dans son lit, Rita dans le canapé. Mais Naomi lui dit, pourquoi tu dors dans le canapé? Tu ne veux pas venir avec moi dans le lit? Et après, cut to... Elle se réveille à deux... Non, je déconne. Ouais. Et
là,
après, elle commence...
Qu'elle
a... si. C'est ça. Et après, on part sur une scène un peu lubrique, à base de petites lesbienneries.
De gros bisous, et aussi de fantasmes.
Et deux je t'aime.
Et deux je t'aime. Ça fait 48 heures qu'elles se connaissent. Voilà. Je t'aime.
Et alors,
est-ce qu'on serait pas dans un truc un peu trop beau pour être vrai?
C'est un rêve. Alors, pour la personne qui le voit sans l'avoir vu une première fois, il se dit, ah putain, c'est vrai que ça va un peu vite. Pour quelqu'un...
Est-ce que j'ai le temps?
Comme Simon
mais ça passe, hein.
Pour Simon qui commence à réorganiser les trucs, se dit, putain, elle est en train de refantasmer cette histoire qu'elle a perdue.
Totalement.
Avec Rita, finalement.
Bah, il y a des morceaux de réalité qui s'imbriquent dans son rêve pour...
Et surtout, dans sa vision à elle, c'est Rita qui vient dans son lit.
C'est oui,
Rita,
c'est ça.
Voilà. Sachant qu'elle a fait que subir. Demande. Elle a fait
c'est
que subir, ouais.
Qui fantasme sur la brune, c'est elle qui est amoureuse de la brune, et la brune lui rend plus ou moins bien.
Mais, voilà, reprenons un petit peu notre
Et
choix,
comme
voilà.
N'importe quel junkie, à 2h du mat, qu'est-ce qu'on a envie de faire?
C'est l'émission.
On va en boîte! Entends-moi!
Ouais, enfin, la Tebois, il n'y a pas grand monde devant.
Ah, elle est un peu nulle, la Tebois, non?
Elle est chelou.
Elle a une vieille remontée, elle fait, oh, silencio, mon pote! Je connais le videur, on peut rentrer.
Elle est remontée en mode, silencio. Pendant son sommeil, genre.
Silencio. On se réveille à 2h du mat, on t'emmène dans ce club, et là,
non, mais déjà, on te réveille comme ça.
T'as un type qui est sur sa scène, qui parle en espagnol.
No hay banda!
Il pourrait parler en tchéco.
Alors, dans la version originale, il parle en espagnol, anglais, français dans la même phrase.
Ah, classe. Là, il dit No hay banda, il n'y a pas d'orchestre.
No hay banda, il n'y a pas d'orchestre. No hay orchestra. Tout ceci n'est qu'un enregistrement. No hay banda, et pourtant, on entend un orchestre. Si l'on veut entendre une clarinette, tendons l'oreille. Un trombone à coulisses. Un trombone con sordina.
Le spectacle est donc suivi d'une femme qui chante en espagnol et qui va s'évanouir.
Et d'ailleurs, Bettier, elle a une réaction chelou en mode elle commence à vibrer chelou. Hein.
Ouais, tout le monde chiale.
Parce que l'autre, elle a mis un puissance.
Oui, c'est ça.
Et en fait, cette chanteuse va s'évanouir. Elle va s'évanouir et c'est là qu'on comprend qu'elle chantait en playback parce que la chanson continue de tourner. Mais ça
c'est
assez
taré comme ça d'ailleurs.
Ouais, bah en fait, bah, même c'est ce que tu disais, la fille s'effondre. Toi, t'es surpris que ce soit en playback, ça change depuis le début. On t'annonce quand même que tout n'est qu'illusion.
Ouais.
C'est
on
super bien fait.
On a beau t'avoir prévenu, tu vois le truc, tu te dis non, c'est pas possible. Et est-ce que la clé du film n'est pas là? Et en parlant de clé.
Et en parlant de clé.
Quel transit!
Excellent!
Quel transit, Gaspard!
Les blagues sur
mais
là,
il y a un truc qu'on comprend pas. D'un côté, d'un coup, Betty ouvre son sac à main et elle sort une boîte bleue dont la serrure semble correspondre à la clé de Rita.
Mais oui, ça correspond tellement même qu'ils la mettent dans la boîte et que ça ouvre.
Ils insèrent la clé dans la fente.
Et là, il y a alors... un petit clown qui sort.
Ouais. Et non, dedans. C'est la Constitution des États-Unis. Ils viennent de la voler.
Gates.
Nicolas Cage.
Nicolas Cage.
Vous êtes dans la merde.
Qui volait la Constitution des États-Unis.
What?
Je n'ai rien entendu. C'est un crime fédéral que tu viens de dire.
Et du coup, elle déverrouille la boîte. Celle-ci tombe par terre et en fait,
on rentre dans la boîte.
Est-ce que tu veux dire qu'on est dans un épisode de C'est pas sorcier et que
c'est ça.
Alors Jamy, c'est le moment où la drogue monte au cerveau, Jamy.
En fait,
là c'est la grosse redescente.
Violemment, puisque là d'un coup on est back to reality.
Hop, the ghost gravity.
Et là, comme dirait des trios, désolé pour hier soir.
Oui, exactement. D'avoir fini la tête à l'envers. Et on voit apparaître la vieille tante de Betty qui cherche un peu la provenance du bruit, mais ne trouve rien.
Et là, voilà. réveil de Naomi, qui s'avère en fait être Diane.
Et c'est là qu'on arrive.
Et on est dans l'appartement de Diane, voilà. Donc de la fille morte.
On arrive un petit peu à ce que nous disait Simon, c'est qu'en fait, là, on est dans la partie non rêvée. On a fait deux tiers du film. Le dernier tiers s'engage.
Juste après le rêve.
On est juste après le rêve. Elle s'est réveillée.
Et donc là, ça va être vraiment chelou jusqu'à la fin.
Voilà.
Bon, là, on le dit comme ça, mais parce que nous, on a lu des interprétations, il n'y a aucun signe qui te permet de comprendre que t'es...
Bah, il y a plusieurs théories.
Elle se réveille.
Mais après, oui, tu sais pas si...
Elle se réveille, mais t'as raison, elle s'est couchée au début du film, là, elle se réveille, mais quand tu vois le film pour la première fois...
Et puis, elle a une sale tronche, alors, forcément. Genre,
non, mais il y a énormément de théories différentes sur, sur l'explication de ces deux scènes.
Mais là, ce qu'on comprend concrètement, c'est que toute la vie qu'on a vue avant est fausse, c'est-à-dire que Betty n'est pas une grande actrice d'Hollywood.
Là, Naomi, elle est moins sexy, hein.
Voilà.
Défoncée.
Elle est moins sexy.
En vieille dépressive.
Mais elle joue quand même plutôt bien, parce qu'on y croit. Et elle vit un amour non partagé par Rita, qui est en fait avec Adam.
Ouais.
Et
Vous voyez un petit peu comment toutes les cases se réorganisent dans un autre sens.
Et attends, Exactement. Et donc Rita est en fait la fameuse Camilla Rhodes.
Il y a un changement.
Camilla Rhodes en fait qui a été dans le rêve de Naomi Watts une actrice pistonnée.
Paris mafieux.
Parce qu'elle n'aurait pas de talent. En fait, dans la vraie vie, c'est une actrice qui a plein de talent, qui a tout ce que Naomi aimerait avoir.
Voilà, c'est ça.
Et qui a fantasmé dans son rêve.
Et elles ont une relation. On l'a déjà dit.
Vas-y, oui.
Donc elles avaient une relation charnelle toutes les deux.
Ah oui,
on retrouve encore les tchouches.
Elles sont amantes, en fait.
Oui, elles sont amantes, voilà, sauf que...
Elles se bouffent le minou.
Sauf que Camilla, maintenant, est avec Adam.
Elles sont allemandes.
Et Diane ne peut pas le supporter également.
Et non. Et
réorganisation des choses, encore une fois, puisque...
Et là...
Elle est conviée à une fête.
Donc là, on peut quand même...
Enfin, Diane.
Je peux juste annoncer avant que là, du coup, on rentre dans un flashback...
Oui.
Flashback. Donc, qui se passe.
Flashback.
Et qui se passe juste avant le rêve.
C'est compliqué.
Donc là, on est dans un flashback qui se passe juste avant le rêve.
Ouais.
Et qui va nous expliquer, en fait, pourquoi le rêve et les choses sont agencées comme ça.
Et là, on a un freeze frame et c'est le dealer de Lynch qui arrive je suis désolé, je peux plus fournir le film là. Ça va trop loin.
Et donc, en fait,
c'est trop loin.
C'est le premier film qui a été visualisé par Nolan et qui s'est dit, oh putain, c'est génial, je vais faire pareil dans les miens.
C'est exactement ça.
C'est génial.
Je vais faire pareil, mais en moins bien.
D'un coup, et là on entend les Somebody wants to be the world is gone. Non, mais du coup, Cécile, tu nous disais, en effet, là on a un flashback. Qu'est-ce qui nous présente ce flashback?
Et bah, retour sur Mulholland Drive, sauf que c'est pas Rita dans la voiture, mais Naomi Watts, du coup.
Qui est conviée à une fête chez Adam et comment s'appelle l'autre homme, c'est la Camilla.
Là où dans son rêve il y avait un accident, en fait, elle s'arrête. Camilla vient la chercher pour l'emmener dans un raccourci entre guillemets, l'amène à cette soirée qui va être une humiliation totale en fait pour Naomi Watts.
Où on voit que Camilla et Adam vivent le fil le parfait bonheur.
Que Coco est en fait la mère
d'Adam.
Voilà.
Que l'actrice qu'on pensait Camilla Rhodes en fait est également l'amante plus ou moins. De
Camilla.
La vraie Camilla.
Voilà.
On voit le cow-boy passer dans le fond, d'ailleurs.
Non, mais tu vois tout le monde, tu vois le mafieux au fond.
Le mafieux aussi.
Tu vois,
En fait, on voit tous les personnages
là,
qui se organisent.
Là, elle prend sa toupie, elle la jette, la toupie s'arrête pas.
Et là,
t'as le bruit, t'as lui qui fait
poney d'Inception.
Non, et t'as le mec de Beyblade qui arrive, qui dit, je te défie avec ma toupie.
Oui, c'est vrai.
Et j'ai l'âme des cartes dedans.
Puis t'as derrière Hans Zimmer qui prépare, il fait, BAM!
Il fait pas la musique, il arrive, il est à poil, BAM! Oui, t'as compris, oui. Et on comprend, en fait, que Diane le tueur à gages un petit peu maladroit était engagé par Diane pour qu'elle tue Camilla. Qu'est-ce qu'il va faire, ce tueur à gages?
Il va lui dire, Camilla, dès que j'aurai accompli ma mission, je vais déposer chez toi une clé bleue et tu sauras que c'est le signe que j'ai tué Camilla.
Et ça se passe au Winky.
Tout, plus le flashback. Et en fait,
voilà, réalité.
Diane,
la clé bleue est sur la
chez
table.
Chez elle, face à la clé bleue, donc on sait qu'elle a tué Camilla. Et là, en fait, elle a un petit peu des remords, quoi. Ouais. Comment dire?
Elle a des remords de telle manière que, en fait, elle va partir en couille. Hein. C'est la dernière montée de drogue. Là, c'est celle
Et là, en fait, c'est quand elle se réveille vraiment dans l'EHPAD. Voilà.
Mais j'ai 92 ans, en fait, putain.
Et dans l'EHPAD, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petits vieux en furie.
Il y a des petits vieux qui viennent la hanter.
Et en fait, les petits vieux, ils viennent l'embêter tellement qu'elle va... Alors, c'est les petits vieux du début qui l'avaient dans l'avion. Qu'elle va se réfugier dans sa chambre et pour échapper à cette vision d'horreur et à sa culpabilité...
Oh, la chance.
Ouais. Elle ne trouvera mieux que se suicider.
Elle prend un fusil et paf.
Non, c'est pas un fusil, c'est un pistolet.
Tout en criant.
Tout en criant quoi?
Ça a quand même pas la même taille.
Ah, c'est galère.
Tu sais que les gens qui se suicident au shotgun, ils se tirent en général avec leur gros doigt de pied. Oui. Voilà.
Le visage du clodo apparaît alors dans la chambre. de la blonde. Et
bonjour,
direct,
madame,
Clodo est blonde.
En fait, c'est un autre mec
nouveau.
De l'EHPAD.
Elle est pas là, madame.
Elle dans le cinéma. Oh putain.
Elle est pas là, madame.
Les lumières se rallument. Je te rends compte qu'en fait, il est pas du tout sur le film.
Il est sur l'écran.
Il est juste devant le projecteur.
Oh là là. Non, j'ai rien sur moi, désolé.
Elle qui l'aimait tant. Le trouvait le plus beau de Saint-Jean.
Non, j'ai pas de pièce sur moi. Mais quand vous avez payé votre place de cinéma, ah, oh, je sais pas, avec ma carte, arrêtez de me faire chier, s'il vous plaît. J'ai déjà donné ce matin sur la ligne 10.
Et on se retrouve alors au club où la chanteuse avec les cheveux bleus murmure silencio.
C'était Mulholland Drive. Simon, est-ce que tu peux nous dire ce que t'en as pensé?
C'était génial, c'était génial. Oh, ouais, c'est... trop bien. Oh, yes, il y en a plus.
Non, bon, sérieusement, qu'est-ce que tu en as pensé?
La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Après, je me suis dit, passer 2h20 à regarder un film comme ça, ce serait quand même con de pas comprendre. Et quand j'ai regardé et que j'ai compris un peu où est-ce que ça allait, là, j'ai adoré. C'est le genre de film.
Ah, j'avais pas mis le son.
C'est ça.
Non, mais c'est le genre de film un peu mindfuck que moi j'apprécie particulièrement, parce que d'autant plus celui-ci parce qu'il y a énormément de références à d'autres films, il y a énormément de choses qui sont cachées que tu peux revoir au bout de la 10e fois, tu vas encore découvrir des choses. Et surtout, David Lynch à la fin, il a pas voulu expliquer son film, il laisse le spectateur trouver sa propre théorie. Et ça, parmi toutes les théories qu'on peut trouver sur Télérama, Wikipédia, elles se tiennent toutes. En fait, il y en a quand même beaucoup qui tournent autour de ce film, et elles sont toutes intéressante et construite. Et
tu sais qu'il a même pas donné à l'équipe du film le sens, parce qu'il faut expliquer ce qu'on a pas dit au début, c'est que en fait c'était un projet de série télé,
ouais.
Mulholland Drive, qui n'a pas plu
à ABC,
genre de la télé, voilà.
ABC, ouais.
Et du coup il a eu ce producteur français Alain Sard qui lui a dit, bah écoute, je te finance moi la fin de ton truc pour que tu en fasses un film. Mais malgré ça, en fait, les réponses qu'ils auraient dû avoir au fin fond de la série, bah lui, il a pas voulu les donner, et il a fini ce truc, et les gens sur le plateau n'avaient aucune idée de ce qu'il racontait.
Ce qui a bandé les yeux de toute l'équipe technique.
C'est ça.
Je filme bien, là, c'est
bon,
drôle.
Là.
Ouais, c'est bien, ouais.
Ce qui fait que dans le film d'après, quand il était en conférence de presse pour faire sa promo, les journalistes repasser sur ce film là pour lui dire, mais on n'a rien compris, expliquez-nous. Et il a jamais voulu expliquer l'histoire qu'il y a derrière, mais il a donné une série de 10 questions que vous pouvez aller voir sur internet,
ouais.
qui vont vous aider, enfin c'est 10 questions orientées qui vont vous permettre de vous créer votre propre théorie, quoi.
Avez-vous pensé à éteindre et rallumer la télé?
Veuillez insérer le bon DVD.
Parce quelle est la dernière
Naomi, what?
Oh, what's the télévision?
Watson?
Ah non, moi je pensais à la lumière.
Quelle est la dernière fois que vous avez contrôlé votre contrôleur des impôts?
C'est ça.
Who watches the watchman?
Qui êtes-vous? Êtes-vous un fondé de pouvoir?
Et toi, Cécile, qu'est-ce que tu en as pensé de... Merci Simon, hein, pour ton avis, ça m'a fait toujours plaisir.
Eh ben écoute, j'ai rien d'autre à ajouter, tellement de plus que tout à l'heure. J'ai bien aimé.
Eh ben ferme bien ta gueule, allez.
C'est un univers particulier que j'aime, c'est complexe, c'est intéressant, c'est assez nouveau, je crois, pour l'époque.
Est-ce qu'on peut parler des tétés de Naomi Watts?
Non,
non, mais de l'autre.
On peut parler des tétés.
Oui,
on peut
parler de l'autre. L'autre.
Les tétés à Rita.
Au gros chouch.
Non, mais du coup, c'est intéressant. Toi qui aimes bien David Lynch.
Après, j'ai pas vu tous ses films.
Non, mais t'as vu Twin Peaks, t'as vu.
Moi, je trouve ça moins drôle et moins déjanté que ce que j'ai vu de lui.
Est-ce que tu préfères?
Bon, putain, Cécile, au bout d'un moment, il faut que tu sois un peu divertissante, s'il te plaît. Alors, tu fais du lol, merci.
Je préfère quand c'est beaucoup.
Chier, quoi. Pour la première fois qu'on t'invite depuis des semaines, et puis tu me fais cette merde. Putain.
Je sais pas.
Bon, et alors, qu'est-ce qu'il a à dire, l'autre con, là?
Bon, bah, moi, j'y vais.
Je voulais pas te couper, en vrai, c'est
toi, tu restes là, bordel! On s'amuse, on est entre potes!
C'est ça.
On est en vacances, on est là pour prendre du plaisir! Merde! Qu'est-ce que t'en as pensé de ce putain de film?
Je suis là, je viens de me faire dessus, je crois. Non, en vrai, donc comme je vous disais, c'était amusant pour moi les deux premiers visionnages. Le troisième, ça m'a un peu gavé, le côté genre un mystère.
Mais t'as droit, tu le vois qu'une fois, hein, pour les émissions. Je l'ai regardé 5 fois.
Si, pour bien comprendre. je le remonte moi-même d'ailleurs. D'ailleurs, vous pouvez voir trouver ma version sur YouTube qui s'appelle True Version. Mais non, sinon, ce qui est très intéressant, c'est l'image qui est très belle, le jeu de Naomi Watts qui crève l'écran très clairement. Voilà.
La musique, la bande son.
Oui, la
musique,
bande-son.
La musique en effet est assez cool, ouais, c'est sympa.
Bah,
un peu minimaliste
quand même.
Et surtout l'ambiance des années 90, début 2000 à la limite si on veut, pour moi c'est très 90 surtout, de ces films que j'aime pas mal, tu vois, un petit peu à la Memento, mais Nolan est une merde, donc c'est pas voilà, tu vois, c'est essayer de reproduire un peu ça, j'ai un peu compliqué ma phrase, mais concrètement,
bon,
c'est
tu veux
film.
Pas fermer ta gueule, Raphaël.
Allez, ça fait deux saisons, personne n'ose le dire.
Justice.
Alors, enfin, vous êtes dit.
Alors, je lis les commentaires des fans qui disent Raphaël, ferme ta gueule. Qu'as-tu à répondre?
Merci de nous le dire.
Tu peux te marrer, mais tu reviendras pas de sitôt. Hein.
Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors, merci de nous le
dire. Je t'en prie, je fais ça tout le temps.
Moi, je trouve que c'est un film assez dingo. Pas un film que je mets dans mon panthéon, mais.
Et bah, ferme ta gueule aussi, c'est sûr. Et voilà, paf!
Alors, rapidement, non, mais je trouve que c'est un film assez. Je sais pas comment dire, mais qui m'échappe totalement. Et en fait, en vrai, je trouve ça assez plaisant parce que c'est ça peut être un film dont je comprends maintenant la narration. Parce qu'on me l'a
ou
expliqué.
Ou pas,
parce que ça se trouve, il n'y a pas du tout de rêve.
J'arrive à être satisfait.
Oui, oui, bien sûr.
L'histoire,
on arrive à
et pourtant, c'est un film où constamment je suis surpris. Et je trouve que il n'y a pas beaucoup de films où, malgré les relectures, j'arrive à encore être surpris.
Et puis surtout, des films qui ont du coup une narration complètement chelou, qui n'a aucun sens, mais que.
Non, bien sûr.
Mais t'es quand même accroché. Comme quoi, un film ne se résume pas à un scénario ficelé dans les règles de l'art.
Mais
quoi.
Après, moi, voilà, ça,
c'est assez intéressant là-dessus.
Lynch, pour moi, ça, c'est Twin Peaks, et Twin Peaks, c'est d'un niveau absolument dingue. Et en fait, je trouve que Twin Peaks, c'est le mec à tape dans ce qu'il y a de plus drôle, dans ce qu'il y a de plus triste et de plus beau. Et en fait, c'est limite, là, c'est limite, c'est con ce que je veux dire, mais c'est trop court, 2h20. Je vois Raph qui devient tout rouge quand je dis ça. Je vais passer le micro. Est-ce que tu as une petite reco pour nous, Raph?
Eh ben, une fois n'est pas coutume, moi je recommandais.
Simon, t'as une reco?
Oui, ça les méchants, c'est ça.
Non, le micro, Simon. Autant que Raph décompresse.
Alors, dans la catégorie des mindfucks.
Et on va redonner le micro à Raphaël.
Je viens de prendre le coup de pression de ma life.
Raphaël, du coup, t'as un reco?
Afro, ça les méchants, Nani, allez, vas-y.
Allez, et on redonne le micro à Simon.
Oh, mais putain, ça va commencer à bien faire maintenant, hein.
Simon.
Bon, alors, dans les mindfuck, je vous invite à regarder Ennemi de Denis Villeneuve, Donnie Darko. Alors, je sais plus.
De Denis Villeneuve.
Je sais plus si c'est lui, c'est le même acteur dedans.
Denis Darko.
C'est le même acteur dedans, c'est Jake Gyllenhaal.
Denis Darko, directeur de mon adolescence.
Ensuite, je vous invite à lire la BD, parce que comme je vous l'ai dit auparavant, je suis feignant, je préfère les BD au bouquin, Le Dahlia Noir, qui a été,
adapté par Brian De Palma.
Fincher ou Fincher, David? Non, Fincher.
Le Dahlia Noir.
De Seven. En BD.
Je suis un peu perdu.
Ouais, là, tu vas trop vite.
Je t'expliquerai en rentrée.
Le Dahlia Noir est un bijou. Bravo.
Oui,
mais,
en
non,
BD.
Non, mais je veux bien, mais attends.
En livre et en BD. Nous.
Qu'est-ce que. C'est, Fincher, il a pas adapté le Dahlia Noir.
En BD? Alors, si c'est pas Fincher, c'est Lynch. Alors, si ça se trouve, c'est Lynch.
Bah,
alors,
dans ce cas, reprend là.
Ah, attends, mais on peut vérifier? Ce serait trop con de dire une boulette comme ça, mais je crois que c'est. Je vous recommande aussi la BD Le Dahlia Noir qui a été.
Réal... par David Fincher,
ouais, et... ou David Lynch peut-être, je sais pas, non,
c'est Fincher,
Fincher. J'ai bien aimé, ça, on retrouve un peu l'ambiance qu'il y a dans cette époque à Hollywood, à Los Angeles. Puis après, pour être un peu moins sérieux, les Nolan, dans le genre,
beaucoup moins sérieux.
Dans le genre, on prend un scénario simple et on va en faire un truc de compliqué dans le montage. Et puis, si vous voulez kiffer, vous retrouver un peu dans les routes de Mulholland Drive, ce genre de choses en version quasi réelle, vous pouvez jouer à GTA.
Très bien vu. On peut se refaire l'accident du début maintes et maintes fois, sans craindre quoi que ce soit.
Et tu parles de GTA, moi je vais parler également d'un jeu qui a été fait par Rockstar, puisque je vous parlais de L.A. Noire, qui est un
elle
jeu...
Est noir.
Elle est noire. Elle est black.
Voilà, c'est ça.
Traduit en France, traduit par nos amis canadiens. Elle est afro-américaine.
C'est ça.
Non mais L.A. Noire, qui est un jeu qui, pour moi, a la meilleure histoire en fait de ces thrillers des années 20 qui se passent à Los Angeles. Et en fait, Mulholland Drive me fait un peu penser à ça, bizarrement. Ça me fait penser à ces polars des années 20 du type d'Alien Noir. Donc je vous recommande d'aller jouer à ce jeu qui est vraiment très sympa.
Et toi, Cécile, est-ce que tu as une petite recommandation pour nous?
Bah, pas vraiment, à part ce que j'ai déjà dit.
Ah bah alors, tu fermes ta gueule!
D'aller voir Twin Peaks, n'est-ce pas, Raphaël? Et aussi, je vous conseille bien sûr le film Sailor et Lula, qui est très drôle, avec Nicolas Cage. Et Mais il n'est pas question de déclaration d'indépendance cette fois-ci.
Non. Je vais parce voler. Qu'il a volé.
Il est question
cœur,
de danse.
Non,
de
il a
danse.
Volé l'orange du marchand.
De danse et de veste en peau de serpent, avec un humour légendé et des inspirations diverses, notamment Le Magicien d'Oz d'ailleurs, je vous laisse
surtout,
regarder ce film.
Il est à nouveau question de chanter en playback, puisque
oui,
on
vrai.
Chante du Elvis,
like
on chante en playback du Roy Orbison dans Mulholland Drive, mm-hmm. et on chante en playback du Roy Orbison dans Blue Velvet.
Ah ouais,
On était tous en train de se dire comment est-ce qu'on va demander à Gaspard Sarocco, il l'a fait tout seul.
Oui, il y a aussi Kyle...
Kylo
Ren dans Star Wars. Star Wars, il a fait Star Wars, David Lynch.
Kyle MacAllen qui est le héros de Twin Peaks.
Exactement. Blue Velvet qui est un film assez dingo, qui en revanche pas très long, je crois qu'il dure qu'une heure 40, qui pue le sexe, vraiment, qui est à nouveau comme Mulholland Drive, très une matière un peu bizarre, qui est un film très, je vais pas dire vénéneux, mais qui pue dans ce qu'il y a de plus dégueulasse, et en même temps qui est magnifique parce que c'est sur la beauté et sur la délicatesse.
Tiens, un True Romance d'ailleurs dans les films un peu de cette époque aussi, assez sympa à voir.
D'accord.
Deuxième écho comme ça. Cadeau.
J'aime bien parce que Raph il bouge les bras depuis tout à l'heure.
C'est ce qu'on appelle la magie du podcast.
Et on se retrouve. C'est la fin de notre épisode sur Mulholland Drive. Merci à toi, Simon.
On s'en est quand même bien sorti, hein, pour être honnête. On a réussi un peu à décrypter le truc. Hein.
Sauf qu'en fait, vous êtes au début de l'épisode et tout recommence.
C'était un rêve.
Ce serait marrant que tu coupes et que tu fasses un montage.
C'est vrai.
Ouais, c'est pour être sympa.
Ah,
et on commence par ce que je dis là.
Là, on commencerait par ce que tu dis.
Ouais.
Là. Ouais. Mais tu sais quoi, je vais pas le faire.
Ouais. Ah, c'est nul.
On n'a pas le temps.
Pas le temps.
Merci à toi, Cécile, d'être revenue.
Merci à vous.
Merci à toi, Raph.
C'était un plaisir.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois-ci de bande dessinée.
Mais oui, puisqu'on va parler de Agrippine avec la grande Madame Bretécher et une non moins grande Madame qui nous accompagnera, la chère Manon.
Et on se retrouve pour parler cette fois-ci cinéma, mais cinéma avec un grand C. On
parle sûrement d'un des plus grands films du XXe siècle.
Grand C comme canin, comme chien, puisqu'on parlera non pas de Kobe, mais de...
Air Bud. Du film d'Alain Chabat.
Un des plus grands films de tous les temps. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, à mettre des trucs sur iTunes, ça nous aide pour
liker
référence,
les pouces bleus,
mettez plein de trucs.
Merci à la tata
soirée.
De Gaspard d'avoir écouté.
Oui, merci
à
ma
maman de partager. Merci à vous de nous avoir écoutés.
Vous aime beaucoup.
On vous fait un gros bisou et on vous dit à la
prochaine.
Silence.
Allez, bisous, ciao. Ce n'était qu'un